Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui, une demi-heure d'infos sur la VOA. Jacques Aristide avec vous en compagnie de Anne Albertson en ce mardi 15 avril 2014. Bonjour Anne.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Les titres ce matin: au Rwanda, arrestation de trois hommes, dont un journaliste et un musicien accusé de menacer la sécurité de l'État.
D'après un communiqué de la police rwandaise, les trois hommes étaient impliqués dans l'organisation d'un attentat contre l'État en collaboration avec le Congrès national rwandais, parti d'opposition en exil.
Dans l'actualité encore, le Sénégal annonce l'envoi de 250 casques bleus supplémentaires au Mali. À l'international, toujours pas d'accalmie en Ukraine, Kiev en appelle à l'ONU. Et dans la partie magazine, plein feu sur un nouvel instrument juridique pour protéger les droits de l'enfant.
Ce protocole est important parce que ça permet à des enfants dont les droits ont été violés et qui n'arrivent pas à trouver réparation ni réponse dans leur pays ou dans le pays dans lequel ils vivent, d'interpeller le Comité des droits de l'enfant.
Voilà pour le sommaire qui comprend bien entendu les sports et la musique du jour. Je vous le disais en titre, au Rwanda, trois hommes, dont un journaliste radio et un musicien, ont été arrêtés pour menace contre l'État. Darina Naidoo.
Cassien Tamuhanga, un reporter de la radio Amazing Grace, qui a été porté disparu le 7 avril, a été arrêté hier, tandis que le musicien Kizito Mihigo et le soldat démobilisé Jean-Paul Dukuzumuremi ont été appréhendés en fin de semaine, d'après un communiqué de la police rwandaise publié sur le site du gouvernement. Le communiqué précise que les trois hommes étaient impliqués dans l'organisation d'un attentat contre l'État en collaboration avec le Congrès national rwandais, parti d'opposition en exil. Ils sont aussi accusés de collaborer depuis un certain temps avec le FDLR, le groupe rebelle Hutu rwandais, en exil en République démocratique du Congo et dont les membres sont accusés d'avoir participé activement au génocide contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Selon la police rwandaise, ces personnes sont sous enquête pour implication dans l'organisation d'une attaque terroriste contre le Rwanda. Et d'ajouter que les trois hommes planifiaient de renverser le gouvernement par la violence, d'assassiner des membres du gouvernement et qu'ils auraient participé activement à un réseau ayant mené plusieurs attaques à la grenade. D'après Damas Kataré, porte-parole de la police, les preuves incluent des grenades, des aveux et des confessions obtenues des complices des trois hommes.
Suite et fin ce mardi de la visite d'État du président malien au Sénégal, Ibrahim Boubacar Keïta a eu des entretiens hier avec son homologue sénégalais. Macky Sall a notamment annoncé le renforcement du contingent sénégalais participant aux opérations de maintien de la paix au Mali. Le compte-rendu d'Idriss Fall.
Le Sénégal va envoyer du renfort aux opérations de maintien de la paix au Mali. Le président sénégalais Macky Sall a annoncé hier l'envoi de 250 soldats supplémentaires qui vont rejoindre les quelques 500 casques bleus sénégalais au sein de la MINUSMA, l'opération onusienne au Mali. Les deux chefs d'État se sont aussi engagés à réfectionner dans les plus brefs délais le chemin de fer Dakar-Bamako pour renforcer la coopération entre les deux pays. On ne sait pas si la question de l'ancien président Amadou Toumani Touré a été abordée par les deux hommes. ATT est exilé à Dakar depuis sa chute du pouvoir. Ibeka avait laissé entendre que son prédécesseur devrait rendre des comptes et même pourrait être poursuivi pour haute trahison au Mali. C'est l'État sénégalais qui était allé le chercher à Bamako peu après le putsch du capitaine Amadou Aya Sanogo.
En Sierra Leone, un tribunal militaire a confirmé hier les charges de mutinerie contre 13 soldats et un capitaine. En leur refusant la liberté sous caution, les 14 hommes, qui ont tous plaidé non coupables, avaient été arrêtés il y a 8 mois pour avoir planifié une manifestation contre le président Ernest Bai Koroma au cours de sa visite dans sa ville natale de Makeni, dans le nord du pays. Les soldats se sont plaints de leur salaire et des logements inadéquats. Ils risquent des peines allant jusqu'au peloton d'exécution.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
5h34, temps universel, à l'écoute de la voix de l'Amérique. En Syrie, les troupes gouvernementales appuyées par des combattants du Hezbollah ont repris l'ancienne ville chrétienne de Maaloula. Jean-Roger Bion.
La reprise de Marloula intervient après celle d'Arsalka, une autre ville de la frontière avec le Liban. Les rebelles ont occupé Marloula en décembre, avant de la perdre et de la reconquérir à nouveau. Ces villes frontalières, dans le viseur du gouvernement, se situent à proximité de la route principale reliant Damas à Homs, un itinéraire clé pour l'approvisionnement des rebelles syriens. Le président syrien Bachar al-Assad parle d'un tournant en faveur de son régime. Pendant ce temps, le groupe international chargé de superviser le démantèlement de l'arsenal chimique syrien affirme que 65% des réserves ont été supprimées, mais que le rythme doit être accéléré. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a annoncé l'arrivée de la 13e cargaison au port de Latakia.
Les affrontements se poursuivent en Ukraine. Les activistes pro-russes sont repassés à l'offensive hier dans l'est du pays. Ils ont attaqué et pris les sièges de la police et de la municipalité à Gorlivka, dans la province de Donetsk, frontalière de la Russie. Les manifestants ont lancé un appel à l'aide au chef du Kremlin, Vladimir Poutine. À Slaviansk, où des pro-russes se sont emparés samedi des bâtiments de la police et des services de sécurité, la situation était encore sous leur contrôle, malgré l'ultimatum du gouvernement pro-européen de Kiev, qui tente toujours de chercher une issue politique. Le président ukrainien par intérim, Oleksandr Turchynov, a demandé hier le déploiement de casques bleus de l'ONU dans l'est du pays. Et au cours d'une conversation téléphonique hier, le président américain Barack Obama a appelé son homologue russe à user de son influence sur les manifestants pour les convaincre de quitter les bâtiments qu'ils occupent. Quant à M. Poutine, il a exhorté M. Obama à décourager le gouvernement ukrainien d'utiliser la force contre les protestataires.
Les autorités chiliennes évaluent les dégâts après l'incendie qui a fait 12 morts et 500 blessés dans la ville portuaire de Valparaíso, à 120 km au nord-ouest de Santiago, la capitale. Les précisions de Timothée de Nongmaï.
Le sinistre a détruit quelques 2000 maisons, entraînant l'évacuation de plus de 10 000 personnes. La présidente chilienne, Michelle Bachelet, a visité les centres d'accueil de ses déplacés. Elle a annulé son voyage prévu cette semaine en Argentine et en Uruguay et demandé à ses ministres d'expliquer les réponses de leurs départements respectifs à ce qu'elle a appelé une grande tragédie. Madame Bachelet a déclaré Valparaíso zone de catastrophe et confié à l'armée la responsabilité du maintien de l'ordre. Le feu s'est déclaré samedi dans une zone boisée au sommet de l'une des nombreuses collines de cette ville historique, inscrite par l'UNESCO sur sa liste du patrimoine universel. Quelques 1250 sapeurs-pompiers, policiers et gardes forestiers, appuyés par plusieurs hélicoptères, ont eu du mal à contenir l'incendie qui était encore actif au petit matin hier.
Sachez enfin que les quotidiens britanniques The Guardian et américains The Washington Post ont été récompensés hier à New York par le prix Pulitzer pour leur révélation sur les programmes de surveillance américains basés sur les documents obtenus par l'ancien consultant Edward Snowden. Ce prix est l'un des plus prestigieux en matière de journalisme et les deux journaux l'ont obtenu dans la catégorie « Service public ».
Voilà donc pour le tour d'horizon de l'actualité. Merci Anne et à tout à l'heure. Vous êtes branchés sur la VOA émettant de Washington. Le monde aujourd'hui se poursuit avec Jacques Aristide au micro. Cap sur la République centrafricaine. Des tirs à l'arme lourde et légère ont été entendus dans la journée d'hier à Grimari, dans le centre-est du pays. Des combattants de l'ex-coalition Séléka sont accusés d'avoir pris d'assaut la ville, ce qu'ils récusent en affirmant avoir été attaqués par les anti-Balaka. Aucun bilan n'est disponible pour l'heure. Idriss Fall a fait le point avec le général Mohamed Moussa Dafan, ancien vice-président de l'ex-Séléka.
Dans la ville de Grimari, les anti-Balaka ont attaqué les positions de l'ex-coalition Séléka. Ils les ont attaqués d'abord en dehors de la ville et puis ils sont entrés en ville. Là, les ex-Séléka sont en train de les repousser en dehors de la ville pour les neutraliser.
Est-ce qu'on a une idée de bilan?
Le bilan jusque-là, pas encore, parce que c'est pas facile de parler avec le terrain directement, mais le bilan, on va l'avoir.
Et qu'est-ce qu'il en est de la situation à Bria, alors?
À Bria, c'est beaucoup plus les populations civiles qui, étant bien informées, hein, sachant ce qui se passe dans l'ouest et le sud-ouest et le nord-ouest, et que les musulmans sont exposés, ils sont massacrés. Là, les populations à Bria se sont opposées carrément, catégoriquement à la présence de Sangari. C'est ça la situation générale. Donc, les populations se sont soulevées, elles ont manifesté contre cette présence-là. Et les ex-Séléka sont là, mais ensuite, quand les éléments français ont tenté de disperser les manifestants par des tirs de fusil, les ex-Séléka sont sortis eux aussi avec leur artillerie. Et donc, c'est ça qui a fait qu'il y a eu une tension. Mais je suis personnellement arrivé à Bria le mercredi. J'ai demandé à Séléka de rentrer. rentrer dans les casernes, ce qu'ils ont fait. Mais ensuite, c'est les populations qui se sont jetées dans la rue. À l'instant où je vous parle, les forces de Sangaris se retirent de la ville. Donc, il reste une petite unité qui est dans une base.
Mais que signifie tout ceci? C'est des montées de tensions dans les villes du Nord, d'autant qu'il y a certaines voix qui parlent de séparation.
La suite de ce qui s'est passé dans l'Ouest. Vous savez que jusqu'à maintenant, à Bouda, les musulmans sont encerclés et ils n'arrivent même pas à manger. Ils souffrent, on ne leur vend même pas à manger. Ils sont affamés. Le quartier kilomètre 5 à Bangui est encerclé et il n'y a pas de possibilité de sortir de là. Les musulmans sont cantonnés de fait au kilomètre 5. Ils ne peuvent pas en sortir. Dès qu'ils sortent, ils sont exposés. Et puis, plutôt à Bangassou, la ville du sud-est, les anti-Balaka se sont pris aux musulmans de Bangassou. Aujourd'hui, à Bangassou, on est en train de massacrer les musulmans là-bas et les médecins n'en font pas écho. Puis, il y a des morts. Je n'ai pas encore le bilan complet.
Le général Mohamed Moussa Dafan de l'ex-coalition Séléka en Centrafrique.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
L'heure de retrouver nos témoins de l'actualité en République démocratique du Congo. C'est la rubrique quotidienne des 100 citoyens journalistes.
Théodore Kayamba, journaliste citoyen, Voix de l'Amérique à partir de Butembo. Ce qui est d'actualité à Butembo, c'est la suspension de la grève de professionnels des administratifs de santé de Butembo et Lubero. Après une semaine de grève sans activité dans les hôpitaux et centres de santé officiels, je suis suspendu cette grève parce que l'autorité provinciale du Nord Kivu, l'Ipaluku, les a demandé de patienter des semaines pour qu'on puisse voir comment trouver solution à leurs problèmes. Mais aussi, ils disent qu'apparemment, ils vont trouver peut-être bien des causes parce qu'ils ont déjà été en contact avec les autorités qui sont au niveau national. Mais aussi, ils disent qu'ils vont répondre à la grève après des semaines si on ne trouve pas bien des causes à leurs revendications.
La Voix de l'Amérique s'associe à 100 citoyens journalistes en République démocratique du Congo. Grâce à des téléphones portables, ces observateurs seront les témoins de tout ce qui se passe au Congo. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur la page Facebook 100 citoyens journalistes et sur notre site www.lavoixdelamérique.com. Mais aussi leurs témoignages tous les jours dans nos émissions destinées à l'Afrique centrale.
Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a condamné hier la généralisation de la torture dans les prisons syriennes. Dans un nouveau rapport, Navi Pillay soutient que des détenus sont régulièrement torturés par le gouvernement de Bachar al-Assad. Elle déplore également son usage par certains groupes armés. Lionel Gaïma avec les détails.
Ce rapport juge absolument horrible les conditions de détention dans certains centres gérés par le gouvernement syrien. Le document parle de dizaines de personnes entassées dans une minuscule cellule, forcées d'utiliser un petit trou en guise de toilette. Les enquêteurs de l'ONU disent que certains détenus sont soumis à la torture physique, qui affecte souvent les victimes de façon permanente. Certains détenus en sont morts, affirme-t-il. Le rapport explique que les hommes, les femmes et les enfants sont arrêtés dans la rue, dans leur maison et leur lieu de travail ou au poste de contrôle du gouvernement syrien. Selon le rapport, beaucoup sont des militants, dont des étudiants, des avocats, des membres du personnel médical et des travailleurs humanitaires. Un porte-parole de la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Ravina Shamdasani, affirme que son bureau a reçu des informations extrêmement inquiétantes sur le type de torture infligée aux détenus. Nous avons le cas de cet étudiant de 30 ans décrivant comment il a été battu, comment on a tiré sa barbe, comment ses pieds ont été brûlés, ses ongles d'orteils arrachés avec des pinces dans un centre de renseignement de l'armée de l'air. Une femme a raconté comment elle a été dénigrée, insultée, puis battue et violée. Un autre homme a également dit avoir été victime de violences sexuelles. Les enquêteurs de l'ONU disent que la torture par des groupes d'opposition armée semble être en hausse depuis 2013, notamment à Al-Raqqa, dans le nord de la Syrie. Mais ils soulignent que la torture n'est pas pratiquée par tous les groupes armés. Elle est sporadique et non systématique, comme c'est le cas avec le gouvernement. Le rapport décrit la torture commise par deux groupes rebelles liés à Al-Qaïda, l'État islamique en Irak et le Levant et le front Al-Nusra. Les témoignages de victimes indiquent que ceux qui sont le plus à risque d'être arrêtés et torturés par certains groupes rebelles sont des militants qui tentent de documenter des violations des droits de l'homme et des personnes soupçonnées d'être pro-gouvernementales ou affiliées à un groupe d'opposition rivale. Shamdasani dit qu'il est difficile de savoir combien de personnes sont détenues ou combien ont été torturées à mort parce que les observateurs de droits de l'homme de l'ONU ne peuvent pas entrer en Syrie. Elle dit qu'il est difficile de documenter le nombre de personnes qui sont mortes en garde à vue parce que le gouvernement syrien a recours à divers stratagèmes pour garder cette information secrète.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme s'est félicité que les enfants dont les droits ont été violés sont désormais en mesure de porter plainte auprès d'un comité de l'ONU après l'entrée en vigueur hier d'un nouvel instrument juridique relatif aux droits de l'enfant. Il s'agit du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant. Pour en savoir davantage, Nathalie Barge a contacté Najat Mahalamjid, membre du groupe d'experts de l'ONU ayant initié la nouvelle mesure.
Pourquoi ce protocole est important? Parce que ça permet à des enfants dont les droits ont été violés et qui n'arrivent pas à trouver réparation ni réponse dans leur pays ou dans le pays dans lequel ils vivent, d'interpeller le comité des droits de l'enfant et donc réellement de soumettre leur allégation, lequel comité des droits de l'enfant interpellera l'État concerné pour réellement avoir la réponse appropriée en ce qui concerne cette violation. Et ça permet effectivement d'assurer un meilleur suivi de ce qui se passe et ça pousse aussi les États, ça c'est très important, à mettre en place aussi des mécanismes de recours nationaux qui sont conformes aux standards en matière de droits de l'enfant. Donc pour moi, j'accueille très très favorablement ce troisième protocole et cette procédure de communication.
Cependant, ce sera possible seulement finalement s'ils ont épuisé tous les recours juridiques dans leur propre pays, ce qui ne paraît pas évident déjà dans plusieurs situations.
Ces procédures de communication existent déjà, elles existent pour le traité lié à la CEDAW, mais elles existent aussi au niveau des procédures spéciales. Moi, mon mandat comporte une procédure de communication et je reçois des plaintes ou des signalements faits par des enfants dans leur pays d'origine qui, même si le mécanisme de recours judiciaire existe officiellement entre guillemets, ils n'y ont pas accès parce que, un, ils ont peur, deux, parce qu'il y a les résistances culturelles, trois, parce que ce mécanisme est dysfonctionnel, où il y a de l'impunité, où l'enfant n'aura pas réparation. Donc la procédure de communication est ouverte à ces enfants-là, clairement et nettement. Et c'est pas parce que les mécanismes de recours existe, c'est qu'il soit accessible aux enfants. Donc, ce n'est pas jusqu'à épuiser tous les recours, clairement et nettement. Si les recours ne sont pas fonctionnels, parce que dans beaucoup de pays, les recours existent, dans le papier ou même physiquement, mais l'accessibilité à ces recours n'est pas une accessibilité conforme aux enfants et ne répond pas ni dans les délais, ni en matière de compensation, ni en matière de réparation, ni en matière de protection, de sécurité, de confidentialité. Donc, quand on parle de mécanismes de recours, c'est vraiment quand les mécanismes de recours nationaux sont conformes aux standards.
Docteur Najat Mahalamjid, rapporteuse spéciale de l'ONU sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants jointes à Rabat au Maroc.
Timothée Donangmaï avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Un autre coup de projecteur sur Boko Haram, une nouvelle fois accusé d'être responsable d'un sanglant attentat qui a fait plus de 70 morts dans la banlieue d'Abuja lundi. Comment s'expliquent les difficultés du gouvernement nigérian à mettre un terme à cette insurrection? Vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Et rendez-vous donc ce jeudi à 19h temps universel sur la Voix de l'Amérique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur la VOA, l'actualité sportive à présent avec Nicolas Pineau. Il est d'abord question des derniers barrages avant la phase de poule en Coupe de la Confédération. Ce sera pour ce week-end.
À suivre à la relance, Al Ahly d'Égypte contre Difa Hassani El Jadida du Maroc. Et le grand choc que tout le monde attend à Bamako, l'AS Real qui reçoit entre guillemets le Djoliba. Un derby inédit pour accéder au tour suivant. Préparation dans la sérénité pour l'entraîneur de l'AS Real, Nuhum Diagne.
Il n'y a pas de problème majeur, je pense que ça va. Déjà, là, c'est deux matchs du championnat qu'on gagne. Et on gagne contre les présents sortants de Salman El Bumako. Hier, on gagne un deuxième match. Donc, je pense qu'à ce niveau, ça va. Il y a un très bon état d'esprit et je pense qu'on est en train de se préparer.
Évidemment, les deux équipes se connaissent très très bien. Vous préparez quelque chose de spécial pour ce match?
Oui, vous savez, bon, chaque équipe a ses caractéristiques. Ils ont des points forts, ils ont des points faibles. Et c'est vrai qu'on ne peut pas aller ça sur les antennes, mais quand même on sait comment ils jouent, voilà, et ça on prépare l'équipe par rapport à ça, quoi.
Et vous attendez évidemment une chaude ambiance, j'imagine?
Vraiment, on est persuadé qu'il y aura du monde au stade, quoi. On est persuadé qu'il y aura énormément de monde. Je pense que c'est un match important et en plus de ça, c'est une première que les équipes maliennes, l'une des rares fois que les équipes maliennes se retrouvent comme adversaires à cette compétition africaine. Je pense que c'est ça, tout ça qui rend le match intéressant. donc il y aura énormément de... Quoi qu'il arrive, je pense que le Mali sort gagnant, parce que ce soit le Yuriba ou le Real, c'est les équipes du Mali. Je pense qu'au-delà de tout le reste, la rivalité et tout ça, je pense que c'est ça le plus important, quoi. Donc ça va être un match intéressant, ça fera un match plaisant.
C'était l'entraîneur de l'AS Real, Noum Diané.
En bref, le retour de Michael Phelps.
Oui, comme l'avait laissé entendre son entourage ces dernières semaines, le nageur Michael Phelps va faire son retour dans les bassins en compétition. L'Américain aux 18 titres olympiques qui s'était mis au golf durant sa retraite sportive. Enfin Jacques, je vous laisse donner quelques résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain la nuit dernière.
Oui, les Raptors de Toronto l'ont emporté 110-100 sur les Bucks de Milwaukee, Memphis 97, Phoenix 91, Boston 108, Philadelphie 113, Miami 93, Washington 114, Charlotte 95, Atlanta 93, Oklahoma City 89, la Nouvelle-Orléans 101, Orlando 95, Chicago 108, San Antonio 98, Houston 104, LA Lakers 119, Utah 104 et Minnesota 120, Golden State 130. Le grand bol d'air frais musical du matin, Roger Muntou, bonjour.
Salut Jacques, j'espère que t'as passé un bon week-end. Le ministre conseiller du président sénégalais, Macky Sall, n'aura jamais l'occasion de valoriser le génie qui sommeille en lui. Après avoir sorti une chanson pour la paix en Centrafrique, Youssou N'Dour vient de lancer le 4 avril la date historique du Sénégal, c'est l'indépendance, la date de l'indépendance même du Sénégal. Fatilikou, c'est le nom de l'album que nous aurons à écouter avec lui sûrement la semaine prochaine, on essaie de l'avoir dans le RM Show. Mais pour aujourd'hui Jacques, pour ce matin, je propose à nos auditeurs d'écouter un autre morceau de Youssou N'Dour que j'adore, c'est Birima.
Fatelikou qui veut dire souvenir en français, un album de 4 titres. Pleine nostalgie avec ce nouvel album, Youssou N'Dour rend donc hommage à la jeunesse, Roger.
C'est ça Jacques, il fait également l'apologie de l'éducation de base fondée sur la politesse. La star sénégalaise a annoncé sur les réseaux sociaux la sortie chaque année, à la même date, d'un album de 4 titres. Vraiment, il faut être Youssou N'Dour, il ne faut pas être Jacques ou Roger.
Youssou N'Dour, Birima, merci Roger.
Bonne journée Jacques.
Voilà, Roger Muntou que vous retrouvez dans RM Show, rendez-vous quotidien à 20h, temps universel.
Satan de jor urmar mummy.
Voilà un petit bonus musical sur la VOA ce matin. Avant de refermer ce numéro du Monde aujourd'hui, un récapitulatif de l'actualité, nous retrouvons Anne Albertson.
Au Rwanda, trois hommes, un journaliste radio, un musicien et un soldat démobilisé, ont été arrêtés pour menaces contre l'État. Cassien Ntaoumanga, Kizito Mihigo et Jean-Paul Dukuzu Muremi. Selon la police rwandaise, ils étaient impliqués dans l'organisation d'un attentat contre l'État en collaboration avec le Congrès national rwandais. Suite et fin ce mardi de la visite d'État du président malien au Sénégal, Ibrahim Boubacar Keïta a eu des entretiens hier avec son homologue sénégalais. Macky Sall a notamment annoncé le renforcement du contingent sénégalais participant aux opérations de maintien de la paix au Mali. En Sierra Leone, un tribunal militaire a confirmé hier les charges de mutinerie contre 13 soldats et un capitaine. En leur refusant la liberté sous caution, ils ont tous plaidé non coupables. En Syrie, les troupes gouvernementales, appuyées par des combattants du Hezbollah, ont repris l'ancienne ville chrétienne de Maaloula. Et puis les activistes pro-russes sont repassés à l'offensive hier dans l'est de l'Ukraine. Ils ont attaqué et pris les sièges de la police et de la municipalité à Gorlivka, dans la province de Donetsk, frontalière de la Russie. Le président ukrainien par intérim appelle au déploiement de casques bleus de l'ONU. Le président américain a appelé son homologue russe à user de son influence pour convaincre les manifestants de quitter les bâtiments qu'ils occupent.
Merci Anne Albertson qui était également à la réalisation. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette édition. C'était Jacques Aristide au micro. Merci de votre fidélité. Très bonne journée sur la VOA. Take care.